Villeneuve à 12h37 jusqu'à 13h et en direct les rendez-vous de l'été en ce vendredi. Vos invités, il y en a deux aujourd'hui dans nos studios. Vous recevez Emmanuel, Michel Sancier et Gérard Beneteau.
Et oui, nos deux invités ce midi ont fait une petite entorse à leur agenda archi chargé du vendredi tout l'été avec la chaîne Neuve. Ils participent en effet au vendredi de Coudray. Depuis ce matin, on vient découvrir toute la journée la commanderie de Coudray à Chalon sous divers angles avec ses personnalités éminentes et passionnées. Bonjour Gérard Beneteau, Michel Sancier. Alors Gérard Beneteau, vous êtes docteur en archéologie et anthropologie sociale. Vous êtes toujours le président du groupement vendéen de sauvegarde du patrimoine archéologique. Michel Sancier, aujourd'hui éditeur, vous lancez chaque année des concours de récits avec toujours pour thème ces lieux emblématiques du territoire. Et par les lieux, donc on vous connaît, édite justement un nouveau livre. C'est le troisième sur Coudray. Je vais vous demander pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, donc Gérard Beneteau, vous êtes tous les vendredis donc à la commanderie. Vous venez à la rencontre et on vient à votre rencontre pour en apprendre un peu plus sur ce site historique qui est aujourd'hui donc entouré de vieilles pierres, un peu silencieux, mais on l'imagine bouillonnant il y a quelques siècles de voix, de bruit, de pas.
Oui, évidemment. Bon, il faut quand même rappeler que c'est Éric Croiset qui fait les visites historiques.
Oui, le matin, donc voilà. Éric Croiset, président de la chaîne Neuve.
Et nous, nous nous occupons de l'archéologie, c'est-à-dire de ce qui n'est pas historique, justement. Donc c'est quand même un site qui a une très longue histoire, comme la plupart des sites en réalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est avant la commanderie et l'architecture même des bâtiments qui ont persisté, surtout évidemment la chapelle, qu'on qualifie parfois d'église aussi, parce que c'est quand même un bâtiment assez grand. Donc on a une de nos collègues de l'équipe qui a commencé un travail d'archéologie du bâti. C'est-à-dire que c'est un travail de dépiautage visuel et technique de chaque pierre composant la construction elle-même pour savoir comment elle était construite, parce qu'on sait que la chapelle était construite au moins en trois phases distinctes et d'où proviennent les matériaux qui composent les murs de cette chapelle.
Et qui donc nous apprend effectivement son âge, son histoire. Les pierres qu'on peut voir aujourd'hui qui sont encore existantes, elles datent de quel siècle ?
Alors,
il y a plusieurs étapes, c'est ça?
Voilà, donc la dernière construction est de la chapelle est du XIIIe, la première construction de la chapelle templière est du XIIe, et il existait une chapelle romane avant qui est du XIe.
Donc on peut commencer à voir un petit peu de monde vers le XIe, et même avant en fait. Alors nous on ne voit pas, mais vous voyez beaucoup de choses.
Oui, oui. On a commencé à comprendre que à l'intérieur même de la construction de la première chapelle du XIe, il y avait déjà des pierres de récupération qui provenaient d'un bâtiment existant encore avant la chapelle, donc une construction en pierre. Donc quelque chose qu'on imagine peut-être gallo-romain. Nous savons qu'à la commanderie de Coudray, il y a un étang qui fait partie de la commanderie, qui est très très ancien, qui date de la première période templière, au moins, c'est-à-dire 12e. Nous imaginons, pour l'instant, nous imaginons, parce que nous avons des éléments archéologiques qui vont en ce sens, qu'il y a pu y avoir une construction gallo-romaine, peut-être gauloise, en rapport avec la source de l'étang de Coudray, puisque l'étang de Coudray étant un étang probablement pour la pisciculture, puisque les chevaliers templiers sont des moines aussi, donc ils mangent surtout du poisson, évidemment, et puis ils le vendent aussi, ils le commercialisent, etc. Et donc on peut imaginer, mais sans grande difficulté, qu'il y a pu y avoir un monument lié à une source. À cet endroit-là, on sait que les Gaulois et les Romains étaient très attachés aux propriétés que certaines sources pouvaient avoir.
Donc en ce moment, vous avez une équipe dont vous faites partie d'ailleurs, peut-être qui effectue non pas des fouilles,
non.
Mais des recherches.
Voilà. Sur la façon dont est fabriquée cette chapelle, a été construite, et nous essayons de serrer un petit peu les éléments des pierres qui la constituent pour essayer éventuellement de reconstituer peut-être un édifice antérieur. Virtuellement, certes, mais nous avons maintenant des logiciels avec ce qu'on appelle orthophotographie qui permet de reconstruire des éléments à partir des éléments qu'on a en base.
Et on est quasiment sûr qu'il y avait un édifice antérieur. Hein. Chaque édifice vient souvent sur un terrain inconnu.
Nous avons aussi également repéré des stèles dont certaines sont fracturées, qui sont à l'intérieur des murs. Évidemment, nous ne pouvons pas les extraire, mais nous allons pouvoir les reconstruire, entre guillemets, par les photos que nous pouvons faire en la technique de l'orthophotographie. Tout ça fait partie de l'archéologie du bâti. Ce ne sont pas des fouilles, hein, ce sont des reconstitutions morceau par morceau. Donc, l'extérieur de la chapelle va être photographié. Et nous allons redessiner pierre par pierre tous les éléments de la chapelle.
On imagine le travail colossal que vous êtes en train de mener.
Ça va être très long.
Alors, vous savez, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une commanderie. Hein. On peut rappeler un petit peu ce qu'a été la commanderie de Coudry pour le secteur, le territoire de l'Ouest Vendée.
Alors, ça, on sait bien parce que la CELAV a fait beaucoup de travail là-dessus. Mais une commanderie, c'est avant tout une sorte d'exploitation agricole avec toujours une chapelle ou en tout cas un édifice religieux, peut-être un prieuré ou quelque chose comme ça, qui est géré par un chevalier ou deux de l'ordre du Temple, souvent très probablement des chevaliers qui ont été blessés en Terre Sainte et qui ne peuvent plus combattre. Donc ils sont estropiés, comme
d'accord,
on dit, et qui sont à la tête de cette exploitation. Les exploitations des commanderies permettent de fournir de l'argent, parfois des animaux de bât ou des chevaux qui sont expédiés en Terre Sainte pour soutenir l'effort de guerre des chevaliers templiers qui sont là-bas. Et surtout ça, une commanderie.
Pour aller vers effectivement Jérusalem. Et donc on peut imaginer au plus grand temps de la commanderie combien d'hommes, parce que c'est essentiellement des hommes qui vivaient là.
Oui, alors dans un premier temps, dans l'enceinte même de la commanderie, il y a deux espaces, la commanderie elle-même des templiers et juste à côté une exploitation, des habitations dans lesquels il y a des esclaves agricoles, donc des serfs, et des vilains, c'est-à-dire des agriculteurs libres, qui travaillent pour le compte des Templiers, mais qui ne sont pas dans l'enceinte même de la commanderie, qui vivent donc dans le petit hameau qui est accolé à la commanderie elle-même, donc des maisons en pierre pour les vilains, puis probablement des maisons en bois ou en terre pour les serfs. Donc ça c'est quand même une exploitation très très importante, la commanderie Coudry, plusieurs hectares mais la commanderie dont le site a été donné par Pierre II de la Garnache au premier grand maître des Templiers Hugues de Payen, parce qu'ils se sont connus en Terre Sainte.
D'accord.
Et c'est pour ça.
On rejoint l'histoire vraiment mondiale.
Voilà, c'est ça. C'est Hugues de Payen, c'est un ami de combat de Pierre de la Garnache, et quand il revient pour créer l'ordre en Occident, il revient voir évidemment les gens avec qui il a combattu, qui sont souvent des seigneurs, des gens nobles, pas que, mais en tout cas des gens nobles, et il leur demande évidemment de les soutenir financièrement, donc des terres, pour leur permettre d'établir des commanderies qui vont fournir l'effort de guerre aux Templiers restés en Palestine.
Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde, et on imagine un site extrêmement important pour l'époque sur le territoire.
Coudry, oui, la commanderie est aussi une des plus grandes commanderies de Vendée, peut-être même la plus grande, qui gérait d'autres commanderies. C'est la commanderie centrale dans ce secteur du Bas-Poitou, et qui dépendra par la suite, lors des hospitaliers, du grand prieur d'Aquitaine. C'est vraiment une très grosse commanderie.
Donc chaque vendredi, là, pendant l'été, tout le mois de juillet et août, on peut venir vous rencontrer. Vous êtes présent avec effectivement la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée. Eric Croisé donc, est le premier à s'exprimer le matin, le vendredi à 10h. Il ouvre le bal par une visite guidée historique. Et je crois qu'il remonte, lui, il va s'intéresser particulièrement à une période, celle des hospitaliers.
Oui, parce que les Templiers ont été arrêtés en 1307, jugés en 1314, du moins certains. Mais là, on expliquera un petit peu justement le fait que les Templiers ne disparaissent pas. Les Templiers rentrent dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire les hospitaliers. Et le dernier commandeur de Coudry, connu, qui s'appelait Jean Durand, est devenu commandeur d'hospitalier quelques mois plus tard. C'est dire que ça s'est passé quand même très très bien dans très nombreux cas. La légende ensuite s'est emparée des Templiers avec un pseudo-trésor, etc., etc. Mais en réalité, ils ont simplement changé de nom. Et ça s'est perpétué jusqu'à la Révolution. C'est devenu l'ordre du Chevalier de Malte, évidemment, qui existe toujours.
Oui.
C'est le dernier ordre militaire des chevaleries qui existe de nos jours encore.
Qui était vivace en Vendée, en Nord-Ouest Vendée, donc à Chaland. Donc on vient le matin découvrir cela avec Eric Croisé. Puis vous êtes là aussi, on peut venir en accès libre toute la journée. Tout au long de la journée, vous êtes plusieurs à accueillir du public. Gérard, Michel aussi.
Oui, absolument.
On était bien patients, Michel.
Et il y aura aussi un spécialiste des Templiers combattants, qui s'appelle Monsieur Grégoire, Alain Grégoire, qui viendra une fois cette année et qui, pendant le mois d'août, sera là aussi pour les enfants, pour faire des démonstrations d'armes, pour effectivement apprendre à se battre, pourquoi pas, pour être un templier dans l'âme quelques minutes avec de vraies armes.
Donc plus au mois d'août.
Plus au mois d'août.
Oui. Mais déjà, là, c'est quand même très animé. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes arrivé justement directement de Coudry ce matin à la radio, costumé. Vous êtes le commandeur, c'est ça, de Coudry, Michel?
Pas templier.
Pas templier.
Hospitalier. C'est-à-dire le deuxième groupe. Vous voyez, je suis habillé en noir, j'ai effectivement un plastron sur le devant. Oui, c'est important d'être présent à Coudry et d'être habillé comme ont pu être habillés les responsables à cette époque.
Et Gérard, je voulais juste partager ma réaction quand je vous ai vu. J'ai dit, oh là là, Indiana Jones. Et vous m'avez dit, ah non.
Alors en fait, moi je suis l'archéologue qui fouillera les os du commandeur plus tard. Quoi.
D'accord. mais j'ai adoré votre réponse sur Indiana Jones. Vous pouvez me la refaire à l'antenne?
Ah oui, pour le chapeau.
Oui.
Oui, tout le monde pense que quand on voit un archéologue, on dit « Ah, vous faites Indiana Jones », c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui ont créé Indiana Jones ont d'abord été voir des archéologues et ils se sont aperçus que sur les chantiers, ils portaient des chapeaux.
Mais,
mais on porte des chapeaux pour le soleil.
Tout simplement.
Donc ils se sont imaginés que tous les archéologues portaient des chapeaux comme ça. Pas toujours, mais en général, oui, on a des chapeaux
pour
le soleil.
Aujourd'hui, il fait très très chaud. Michel Sancier, donc, vous allez accueillir du public. Hein. Vous publiez, d'ailleurs, on le rappelle, un nouveau livre. Ce n'est pas un, mais deux concours que vous avez consacrés à Coudry. Et c'est un troisième ouvrage que vous proposez. Là, on va en parler dans quelques minutes. Compte des pierres de Coudry. Et donc, vous serez sur place aussi pour parler ce lieu de Coudry chaque vendredi, voire plus encore.
On en parle dans... Ah, pardon.
Non, c'est bon, dans 3 minutes.
Dans 3 minutes, ok. Pub et la pause musicale. A tout de suite avec les rendez-vous de l'été sur Nov.
Le Filon Mag, c'est le magazine mensuel du Nord-Ouest Vendéen. Le Filon Mag, découverte, reportage, événements et annonces. Le Filon Mag, c'est une vraie mine d'or. Et en plus, il est gratuit. Il est gratuit. Retrouvez le Filon Mag dans vos commerces et offices de tourisme de la région. Et n'oubliez pas, il est gratuit.
Jean-Loup ? Jean-Loup, t'es dans la chambre ? Oh non, Jean-Loup, trois d'un coup ?
Les soldes chez Literie de Morphée, c'est une orgie de petits prix. Jusqu'à moins 50% sur le linge de lit et les plus grandes marques de matelas. Technilat, Dunlopillo, Tempur et Massili.
On avait dit un matelas. Là, tu me fais le plan à trois. C'est trop, trois matelas.
Succombez à vos envies. Literie de Morphée, route de Nantes à Chaland.
Soldes du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet sur articles signalés en magasin.
Adepte de kitesurf? Location Kitesurf Atlantique, votre agence de location kitesurf, wingfoil et paddle. Pour une semaine de vacances, un week-end ou une journée, nous vous louons notre matériel au bon moment, au bon endroit. Profitez de notre service de livraison sur les spots vendéens ou directement à domicile. Une rafale de bons prix pour rider avec du haut de gamme. Location Kitesurf Atlantique, pourquoi s'encombrer quand on peut louer? Retrouvez toutes nos infos sur location-kitesurf.com, Facebook et Instagram. Ridez, naviguez.
Voilà, pas planning de vacances. Alors si je me lève à 4h, j'ai le temps de faire mon pain, préparer le petit déj et pourquoi pas le déjeuner. Sauf que, si je vais au Spar Caravanil, je peux faire la grasse mat, trouver du pain et des viennoiseries, un bon poulet rôti sans oublier les produits frais, les fruits et les légumes. Et ben voilà, le Spar du Camping Caravanil, c'est au rond-point du Bonhomme à la Guérinière et c'est ouvert tous les jours de 7h30 à 20h30. Oh, ça facilite la vie la proximité quand même.
Pour votre santé, bougez plus.
Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouveras-tu les mots. Les mots au-delà des fourbes apparences se cachent les fêlures de l'enfance. Solitude, à faire une escale, tout là-haut, à nourrir le calme. se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence,
avec tout là-haut sur Nov. Jusqu'à 13h, la suite, ça continue, les rendez-vous de l'été. Deux invités aujourd'hui, Emmanuel, vous recevez dans nos studios Gérard Beneteau et puis également Michel Sensier.
Oui, venu tout droit de la commanderie de Coudray aujourd'hui, vous y retournez d'ailleurs tout à l'heure car tous les vendredis, ce sont les vendredis de Coudray avec la chaîne Nov, avec Parler les lieux, avec vous Gérard Beneteau et donc tout un groupe d'archéologues qui viennent faire des recherches. C'est une journée pleine de curiosité, d'animation. Vous allez au fil de l'été créer avec des rendez-vous particuliers, donc le matin, visite guidée, toute la journée on peut venir vous rencontrer selon les arrivages, vous allez évidemment intervenir et puis vous avez des temps avec du conte, du récit, là c'est Parler les lieux qui va être en action et tout l'été vous aurez divers conteurs, acteurs qui vont venir. Racontez-nous un petit peu comment se profile cet été, Michel.
Eh bien, tous les vendredis, des chercheurs sont là, des conférenciers sont présents, des techniques peuvent être travaillées avec notre ami. Et puis, il y a les conteurs qui vont, vers 15h, venir dire des choses vraies avec un langage un petit peu faux. Et nous avons là une équipe de conteurs qui ont, à un moment, travaillé avec Parler les lieux, ou qui nous aiment beaucoup et qui vont venir nous rejoindre. Je pense à des gens d'ici, à Arzel par exemple, mes meilleures chanteresses, Jacques Combe qui est connu comme un conteur professionnel, mais aussi Bruno Nion qui vient de l'Est de la France, un garçon exceptionnel, Monsieur Juste Beneteau, qui
voilà, votre
est
fils,
le beau-fils de son père.
Étudiant en histoire et acteur.
Puis, voilà, et les Almetteurs aussi qui viendront à la fois travailler, jouer en même temps qu'ils conteront des histoires quelquefois fort pendables. Voilà.
Et peut-être pas très loin, les contes des Pierres de Coudray seront présents.
Alors bien sûr, il y a une table de livres qui sont à disposition des visiteurs.
Parce qu'on rappelle, vous êtes éditeur et vous lancez des concours justement de récits, de contes, d'écriture en tout cas sur des sites. Coudray, vous avez lancé deux concours, c'est le troisième livre qui vient de sortir quand même.
Voilà, les deux premiers livres étaient sur Coudray même, c'est-à-dire comment les Templiers vivaient, comment ils partaient, ils revenaient, ils combattaient. C'était à la fois terriblement historique et dans le même temps, malgré tout, des contes pour que ce soit plus facile. Cette année, on s'est dit que les hospitaliers avaient une demande très particulière. La langue de France, c'est comme ça qu'on appelle les commanderies hospitalières, avait dans l'ordre une vocation particulière, élaborer de nouveaux soins. Or, dans cette période du Moyen-Âge, on ne peut pas dire que l'Église aide beaucoup, puisqu'on n'a pas le droit de toucher au corps. Mais on va demander aux commandeurs de chercher des nouvelles techniques de soins qui permettront de réparer les corps des gens qui sont encore au combat en Méditerranée. Et cette commande, on l'a traduite, nous, dans un livre concernant Coudray, où le commandeur de Coudray a demandé à ses frères et ses sœurs, parce que chez les hospitaliers, il y a aussi des femmes, d'aller écouter les lieux. Alors écoutez, les lieux, une pierre, ça parle pas, un site, ça parle pas. Ben si, il y a des légendes. Donc écoutez ce lieu et regardez pourquoi les personnes qui avaient des grandes maladies, qui avaient, pourquoi pas, été atteintes de la peste, venaient se faire soigner. Et nos auteurs sont allés écouter ces pierres et sont revenus avec des choses particulières. particulièrement étonnant.
Mais toujours, hein, toujours.
Très étonnant.
Vous avez toujours des. Alors juste un petit mot sur le vainqueur entre guillemets, le premier conte ou récit qui a été primé par votre jury.
Alors, le premier récit qui a été primé est un texte de Monsieur Simard, qui est aussi un des responsables de ces visites du vendredi.
Yves Simard.
C'est aussi un musicien, c'est Yves Simard.
Oui.
C'est un superbe beau texte.
Et on rappelle que quand votre jury reçoit les textes, il n'a pas les noms, hein, c'est anonyme, hein, les textes des différents candidats.
Absolument.
Donc Yves Simard s'est retrouvé vainqueur. Entre
le comité de lecture examine les textes sans savoir qui les a écrits. Il ne pouvait pas savoir cette année qu'il y avait, par exemple, à l'intérieur des 16 concurrents, Madame Simonsen. Madame Simonsen, c'est le sourire, hein, la grande prêtresse des contes. Elle a une chaire à Copenhague, c'est la seule chaire, hein, dans ce milieu, une chaire concernant les contes et l'oralité. Et elle a décidé de travailler comme concurrente.
Elle a participé.
Et elle nous rejoindra l'année prochaine.
Extraordinaire.
Comme conseillère.
Ah, très bien.
Ce qui est intéressant.
Et, je crois que vous avez
et puis dans le même temps.
Tout jeune aussi,
oui.
C'est ça. Vous avez un tout jeune aussi
voilà.
Candidat.
Et juste à côté d'elle, 81 ans pour ce qui est de Madame Simonsen, 13 ans. Une jeune gamine, quelquefois un petit peu têtue, très très.
Elle a participé et elle est publiée.
Eh oui, et elle a été particulièrement appréciée par le comité de lecture.
Donc il est 13h, je suis désolée Michel et Gérard, on va devoir s'arrêter. Mais donc on rappelle, hein, votre livre, il est bien publié, on peut le retrouver et on va aussi vous retrouver tout l'été, donc tous les vendredis à Coudray. Petite parenthèse, vous serez aussi ce soir par les lieux avec le groupe La Gnolaille à Salerten entre 17h et 21h. C'est le premier vendredi gourmand qui est proposé l'été, c'est tous les vendredis jusqu'au 26 août. Un marché de producteurs locaux, les 25 ateliers d'artisans participants ouverts dans le village de Salerten. Et donc ce soir, cette animation musicale avec La Gnolaille et Parler des lieux. On va vous retrouver aussi au Foire à l'Ancienne, autrefois Chaland, les 4 jeudis. Et puis beaucoup d'autres actions. Là, on en reparlera pendant l'été, évidemment, dans les blocs neufs. Merci beaucoup à vous. Ben, je vais vous libérer parce que vous avez du travail cet après-midi à Coudray. On peut venir en accès libre, je ne l'ai pas dit non plus, c'est complètement gratuit. Hein. On vient tous les vendredis entre 10h et 18h.
Absolument.
C'est gratuit. Et on va revenir ce soir en plus.
Et on sert même un super superbe verre de vin de Mareuil, parce que dans le livre, nous faisons la promotion de ce viticulteur grâce au fait qu'il a chez lui deux dolmens qu'il nous a autorisés à citer, et surtout qu'on a redécouvert que la légende de Merlin commence dans ce lieu de René.
Bon, on va lire ça et on va écouter aussi, hein, puisque chaque livre est associé à un CD des acteurs qui nous comptent là les contes de Pierre de Coudray.
Parfait, merci, bon week-end à tout le monde. Émission podcast évidemment sur Neuve dans quelques petites secondes. Vous revenez dès lundi, d'autres invités, d'autres sujets, 12h35 évidemment, tous les jours, tout l'été sur Neuve, les rendez-vous de l'été. À tout à l'heure pour sortir, très vite et après les infos, Slimane, iPhone et The Pretenders sur Neuve.
Neuve. Bonjour à tous, l'assassinat de Shinzo.